Bonjour Lionel Lavarec, bienvenue dans le podcast Création Collective, le podcast animé par les Masters Design Transdisciplinaire Culture et Territoire. Moi c'est Elena.
Moi c'est Arthur.
Et moi c'est Colline.
Nous sommes étudiants et étudiantes en première année du Master DTCT à l'Université Toulouse Jean Jaurès et nous avons aujourd'hui le plaisir de vous accueillir pour une interview et un débat sur les sujets qui nous touchent. Nous vous remercions de votre présence au studio aujourd'hui avec nous, merci beaucoup.
Merci à vous pour cette invitation et puis pour cette discussion autour d'un livre que j'ai eu plaisir à travailler et auquel nombreux auteurs ont contribué. Voilà.
Vous avez en effet dirigé cet ouvrage qui vient de paraître aux éditions CNRS qui s'appelle « Design et communication, création collective ». Il s'agit d'un ouvrage en coécriture avec plusieurs intervenants et intervenantes. Et dans cet ouvrage, vous abordez toutes les questions qu'englobent les concepts de contribution, de coproduction, d'interdisciplinarité et de collaboration dans les projets de design. Vous avez par ailleurs écrit sur ces sujets aussi depuis plusieurs années et vous pratiquez ces méthodes au sein de votre activité professionnelle en tant que Strategic Communication Senior Manager. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Au sein de l'entreprise Dassault Systèmes. Pouvez-vous du coup nous présenter en quelques mots l'ouvrage et expliquer à tout le monde qui nous écoute dans quelle démarche est-il né, s'il vous plaît ?
Oui, très bien. Alors, moi je suis designer en fait à la base, donc j'ai fait l'école Boulle. J'ai une vision du design qui est celui d'un designer. Donc c'est ce que j'ai pratiqué pendant très longtemps dans les entreprises dans lesquelles j'ai pu travailler, Sagem, Safran et maintenant Dassault Systèmes. Le recul que je peux avoir, c'est en fait d'avoir fait une thèse de doctorat en sciences de l'information et de la communication qui est née d'une volonté de progresser un peu plus dans les sciences humaines, d'apprendre plus de choses pour pouvoir pratiquer un peu mieux mon métier qui était en fait qui a dérivé au fur et à mesure sur la communication. Donc je fais de la communication maintenant depuis quelques années. Et en fait, cet ouvrage, donc en parallèle de mon travail à Dassault Systèmes, je fais partie d'une revue qui s'appelle la revue Hermès, donc qui est la revue du CNRS pour tout ce qui est communication, cognition et politique. Et en fait, cette revue, elle interroge un certain nombre de sujets, c'est sa particularité, sous le prisme de la communication. Alors pourquoi ? Finalement, c'est le but, c'est pas de faire de sortir des ouvrages et de parler uniquement de communication in abstracto. L'intérêt, c'est de confronter la communication avec la vie réelle, c'est-à-dire plusieurs sujets, plusieurs domaines, notamment, je vais vous dire de façon très, très globale, mais il y a des choses qui vont de l'Amérique latine, les classements des universités, les parfums, le journalisme, la confiance. Alors, en fait, c'est des notions ou c'est des domaines ou c'est des métiers qui tous sont toujours confrontés. Enfin, il y a une vision qui peut se faire par le prisme de la communication. Et en fait, c'est cette entrée qui guide en fait tous les ouvrages de la revue. Et donc, on a décidé, on a fait une proposition en bureau en disant finalement il y a une notion qui est très intéressante mais qui est très peu vue à travers la communication qui est le design. Donc ce qu'on a commencé à faire c'est en fait moi en bon designer le design très souvent la façon dont il est décrit même en termes de recherche c'est à travers le résultat, c'est-à-dire on va regarder ce que font les designers. Alors on va regarder des architectures, on va regarder... Alors, petit aparté, le design, on l'a vu au sens large. On ne l'a pas vu uniquement au sens européen, qui est le sens créateur, si je peux faire un raccourci. Mais on l'a regardé au sens global, qui est celui des concepteurs et des créateurs, c'est-à-dire la vision anglo-saxonne et la vision européenne. Voilà. Donc, on y reviendra peut-être après, mais c'était pour faire un petit aparté. Donc, on a regardé... Finalement, ce qui existe, c'est le résultat. On regarde d'où, quelle est l'intention de départ. Et à la fin, on a le résultat. Et étonnamment, c'est toujours ou très souvent une connotation très positive autour du design. Et on s'est dit, finalement, si on parle de communication, à quel moment on pourrait justement, parce que c'est la pertinence de la revue, est-ce que le sujet design est pertinent pour la revue Hermès ? Oui, en fin de compte, on a trouvé une façon d'aborder le design qui est en fait pas le résultat, mais le processus. C'est-à-dire, au lieu de regarder ce qui se passe avant et après, on a regardé comment les choses se font au milieu. Et on est arrivé avec des choses assez intéressantes, c'est-à-dire que le design n'est pas toujours, toujours positif. C'est-à-dire que si vous regardez en termes de processus, le design peut avoir effectivement des aspects très positifs, d'émulation, pour guider, pour arriver à trouver à plusieurs des choses intéressantes, mais il peut être aussi inhibiteur, c'est-à-dire que dans le design, il y a aussi la notion de méthode, il y a aussi la notion de processus un peu réglé, qui fait que on a peut-être quelquefois l'ambiguïté de suivre quelque chose en se disant qu'on va arriver forcément à quelque chose de positif, mais on n'interroge pas forcément la dynamique de groupe. Et en fait, cette dynamique de groupe qu'on a retravaillée, qu'on a plutôt interrogée à travers la communication, elle est... En fait, elle peut pas. Elle a besoin d'avoir une compréhension qui est plutôt liée aux sciences humaines. Donc, c'était un petit peu l'approche de l'ouvrage, de se dire on n'interroge pas le résultat, on interroge le processus. Ça nous oblige à regarder à travers les sciences humaines et notamment la notion de communication. Voilà. Donc, c'est une particularité de l'ouvrage parce que très sincèrement, il y a très peu de livres qui sont en fait en termes de recherche qui regardent le design de cette façon. Voilà. Et ça nous intéressait et je pense que ça intéressait aussi beaucoup d'auteurs de contribuer sur cet aspect qui est peu interrogé et peu communiqué.
Justement, vous avez un parcours qui est assez multidimensionnel. Vous travaillez à Dassault Systèmes depuis 2009. C'est une entreprise qui a débuté en 1981 avec le développement des logiciels de modélisation 3D pour la conception de maquettes aérodynamiques. L'activité de l'entreprise a évolué jusqu'à la commercialisation de logiciels professionnels dans des domaines industriels comme la défense, l'ingénierie, la construction, etc., en s'appuyant sur l'idée de virtualisation du monde. Actuellement, dans votre poste à Dassault Systèmes, vous avez connu l'évolution des outils de communication, notamment avec ceux de la technologie. Comment percevez-vous cette évolution? Voyez-vous des enjeux de communication pour les générations futures dans le cadre du design?
Alors effectivement, si vous voulez, sur la partie qui nous intéresse à Dassault Systèmes, qui est la partie de développement de logiciels au service des créateurs, des concepteurs, le but c'est d'arriver à des objets réels, c'est-à-dire que c'est pas dans le domaine de l'entertainment, c'est-à-dire c'est pas pour faire des films ou c'est pas pour faire du jeu vidéo. Le but, in fine, c'est de faire des vrais produits, des vrais services, des vrais soins, traitements, etc. Voilà, donc les activités sont assez larges. Quand vous travaillez sur ces aspects, vous travaillez pas, c'est pas des personnes qui travaillent toutes seules dans leur coin. Par exemple, le développement d'une voiture, le développement d'un vaccin, le développement d'un bâtiment, ça nécessite beaucoup de personnes. Donc vous avez des outils métiers pour chaque personne, c'est-à-dire que vous avez des gens qui vont faire de la modélisation, vous avez des gens qui vont travailler sur la structure, vous avez des gens qui vont travailler sur la notion de système, sur la simulation, après sur l'industrialisation, etc., etc. Donc ça, c'est des applicatifs métiers qui sont en fait destinés à chaque personne en fonction de son rôle, de ses capacités, voilà, etc., etc. Mais vous avez aussi des outils qui sont plus transversaux, qui sont des outils de collaboration. C'est-à-dire que vous avez besoin aussi que, ok, vous avez un certain nombre de personnes qui ont leurs capacités, mais à un moment donné, ces gens-là travaillent ensemble. Notamment... Vous avez eu des révolutions dans le monde industriel, où par exemple vous êtes passé d'un mode de travail qui était plutôt en série, c'est-à-dire vous aviez des personnes qui se suivaient avec des métiers, des applicatifs différents, à un mode de travail plutôt concurrentiel, qui est un mode de travail où on regroupait tous les gens en plateau. Donc on est passé en mode projet. Ça a changé beaucoup de choses, c'est parce qu'en fait, ce qui a changé, c'est que tous les professionnels se sont retrouvés ensemble. Ils étaient plus tributaires du travail des professionnels d'avant, mais ils étaient tous ensemble pour trouver des solutions ensemble et pour discuter ensemble du développement de leurs produits. Donc ça nécessite Au-delà de l'aspect métier, il y a un autre aspect qui est l'aspect collaboratif. Donc ces outils collaboratifs, ils sont arrivés un petit peu plus sur le tard, puisqu'ils sont arrivés après les applicatifs métiers, mais ils prennent une part de... Ils ont un rôle de plus en plus important au sein des, de grandes structures, mais aussi de structures plus petites. Parce que à partir du moment où vous êtes plus que un, vous avez forcément besoin de transmettre de l'information, vous avez forcément besoin de confronter d'un point de vue sur une base commune différents aspects liés à votre produit ou à votre service. Et c'est cette base commune qui est importante. Donc, en fait, c'est pour ça que j'ai fait ma thèse, entre guillemets. C'était pour essayer de mieux comprendre les dynamiques collectives et donner, en fait, on va dire, des indications et pouvoir aller un peu plus loin sur ces aspects, sur ces outils. Voilà. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'outils qui existent, qui donnent des choses d'un point de vue... on donne des espaces de collaboration, on donne des moyens pour communiquer... Mais on se rend compte que ça ne suffit pas. Voilà. Et en fait, dire ça, ce n'est pas, bon, c'est pas suffisant. Donc, quand on veut aller un petit peu plus loin, on fait un petit peu de recherche en sciences humaines. Et puis, on regarde ce qui se passe, notamment autour de la science de l'information et de la communication. Parce qu'en fait, c'est un peu le cœur de la chose. Petite distinction entre pourquoi on dit information et communication. Il y a une grosse différence parce que la communication, vous avez quelqu'un en face. Ce qui n'est pas le cas de l'information. L'information, vous allez donner une information. Bah, quelque part, vous n'allez pas forcément avoir le soin de savoir comment la personne en face le reçoit ou le retraduit. Par contre, quand vous êtes dans une dynamique de communication, vous avez quelqu'un en face qui s'appelle l'autre et bah, il ne comprend pas les choses comme vous. Il n'a pas le même... il n'a pas la même culture, il n'a pas la même, le même ressenti, etc., etc. Donc faire attention à l'autre, être dans une posture de communication, c'est très différent d'être dans une posture d'information. Et pour l'instant, on a énormément d'outils qui proposent des choses intéressantes, mais qui sont peut-être trop dans une posture d'information. C'est-à-dire, on va pousser quelque chose et on ne va pas forcément attendre ou travailler sur l'échange. Alors ça, je vous dis... il y a quand même eu des grandes avancées dessus, hein. C'est-à-dire que les derniers outils un petit peu communautaires ou conversationnels permettent effectivement d'avoir plutôt un mode de communication, de considérer l'autre, etc. etc.
Bah justement, en fait, vous nous parlez de ces outils de collaboration, de communication. Et on se demandait, est-ce que vous avez justement un ou des concepts représentatifs qui seraient faciles à visualiser ou à mettre en place, en fait, pour faciliter la communication au sein d'un, de l'entreprise déjà où vous êtes, mais plus largement aussi au sein de, d'un projet de design. Et aussi un concept, ou un ou des concepts que nous-mêmes, en tant qu'étudiants, on pourrait réutiliser à nos futurs projets de collaboration.
Alors, je ne sais pas si c'est en fait en termes conceptuels qu'on peut donner une solution. Il y a une chose qui est assez vraie, c'est que, et c'est là où le design a un rôle à jouer. Finalement, vous arrivez, et c'est ce qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure des développements des outils. Quand on a travaillé en mode plateau, on avait besoin d'avoir une représentation commune à l'ensemble des métiers. Donc, assez rapidement, on est passé... en fait, par exemple, vous avez un mode de travail qui fonctionne très bien, qui était le plan, qui est une représentation codifiée. Mais cette représentation codifiée, elle n'est pas compréhensible par tout le monde. Même si elle paraît très simple, même si elle paraît plus ou moins accessible, elle n'est pas compréhensible par tout le monde. Parce qu'autour de la table, vous avez des gens qui sont aussi du marketing, vous avez des gens qui sont sur des études, vous avez des gens qui sont dans la finance, etc., etc. Donc ça ne leur permettait pas en fait, d'avoir une compréhension et un accès au projet. Donc par contre, après, donc, vous avez des gens qui ont la capacité de travailler, par exemple... dessiner, faire des représentations tridimensionnelles. Après, vous avez eu les maquettes. Après, vous avez eu les, ce qu'on appelle des modèles numériques qui permettent en fait de voir comme une maquette, mais qui sont un petit peu plus souples, dans le sens où vous pouvez faire en fait des mises à jour en temps réel, en fait, des changements. Votre maquette, si vous faites une mise à jour, bon, bah, vous allez finalement dégrader un peu la maquette pour voir un petit peu ce que... mais vous êtes obligé de la refaire. Donc, pas forcément en termes de concept, par contre en termes de représentation, oui. Et en quoi c'est intéressant, c'est que la représentation, C'est pas toujours la même, c'est-à-dire vous pouvez la faire évoluer en fonction de ce que vous avez besoin de communiquer. Et encore une fois, quand on dit communiquer, c'est que vous faites attention à la personne qui va réceptionner l'information en face. Donc, si vous faites attention à ça, vous n'allez pas être, vous n'allez pas donner à voir uniquement ce qui vous semble bon, mais vous allez faire attention à ce que les autres vont pouvoir comprendre aussi de ce que vous allez pouvoir leur montrer. Donc, vous êtes en posture de communication, donc vous adaptez, et l'adaptation de la représentation, la flexibilité à ce niveau-là, elle est fortement rattachée au profil des designers, encore une fois, au sens large. Parce que il y a une capacité à pouvoir représenter les choses, à pouvoir changer un petit peu le mode de représentation en fonction de ce qu'on a à montrer, à faire évoluer aussi certains schémas, etc. etc. Donc voilà, la réponse en fait qui me semble la plus appropriée est plutôt une réponse de représentation. Alors, pour revenir à l'ouvrage, on a fait un chapitre entier hein, sur cette notion. On ne l'a pas donné uniquement une vision de design stricto sensu. On a essayé de l'ouvrir. C'est pour ça qu'en fait, le premier chapitre est plutôt sur la notion de représentation et langage. Pourquoi ? C'est que ça nous permet d'ouvrir un petit peu plus et de relier à la notion de communication. Voilà. Pourquoi langage ? Par exemple, on a un article intéressant, enfin très intéressant, sur la notion de narration. En fait, la notion de narration, elle n'est pas forcément présente quand on enseigne le design. Par contre, on se rend compte dans le monde professionnel qu'on a besoin aussi d'aller un peu plus loin que juste donner à voir un objet. Et puis, voilà, on vous raconter des choses un petit peu autour. Qu'est-ce qui se passe autour de l'objet? Comment il est utilisé? Qu'est-ce qui fait qu'il pourrait être intéressant, etc. Et donc, il y a toute une notion nouvelle qui est apparue, qui s'appelle le design fiction. Et ça, en fait, si vous dites représentation, en fait, c'est pas une représentation, puisque ça passe par le langage. Donc, la communication, elle apparaît à travers le langage et la représentation, qui est le premier chapitre et qui nous a semblé intéressant, puisque pour nous, c'est la base pour pouvoir après travailler sur le compromis, qui est sur le second chapitre. Voilà. Donc, c'était une bonne façon de rentrer un petit peu en matière avec des choses qui sont des fois factuel pour certains, mais en fait, avec les deux notions, langage et représentation, on a des contributions qui sont plutôt novatrices par rapport au monde du design.
Pour revenir un peu à l'ère numérique et à tous les objets de communication par le numérique, vous semblez convaincu par l'intérêt primordial de la communication par le numérique, ou en tout cas vos sujets de recherche en témoignent. Et semblez en même temps, du coup, par vos discours et même par l'ouvrage convaincu par celui du rapport d'humain à humain, comment pallier à un équilibre entre ces deux notions ? Est-ce que c'est vraiment dissociable ou pas ?
Alors, il faut. Là où il y a danger, c'est quand vous raisonnez numérique uniquement ou quand vous raisonnez humain uniquement. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand on raisonne humain uniquement, effectivement, on peut faire dans les entreprises, depuis qu'on a donné un peu plus de flexibilité, qu'on est moins sur une organisation taylorienne où chacun a son rôle et doit s'y coller, il y a quelque chose qui est apparu et qui est devenu naturel, qui était le fait de faire des réunions. Paradoxalement, quand vous regardez un petit peu les études qui sont autour des réunions, que ce soit il y a 10 ans ou maintenant, on considère que les réunions, en fait, font perdre du temps aux gens. Alors que, on s'est dit, on veut que les gens travaillent ensemble. On veut que les gens construisent des choses ensemble. On veut éviter que les gens travaillent tout seuls dans leur coin, parce que chacun, en fait, a des talents particuliers, chacun a un point de vue, et la richesse des points de vue, c'est ce qui fait le succès d'un produit ou d'un service sur lequel on travaille. Et à côté de ça, vous dites, dans ce cas-là, on met les gens ensemble dans une salle, et puis on les fait travailler. Est-ce que c'est suffisant ? Non, malheureusement. Donc après, il y a tout un groupe de méthodes qui arrivent et qui vous disent « Non, la réunion, il faut la faire comme ci, comme ça, il y a des règles, etc. » Est-ce que c'est suffisant ? Non. Pourquoi ? En fait, très souvent, on se rend compte que finalement, les gens ne comprennent pas toujours la même chose. Hormis, en fait, il y a tout un tas de contingences de réunions qui fait que il faut avoir un objectif, il faut avoir que les gens aient conscience de toutes les étapes sur lesquelles il faut passer pour aboutir à cet objectif à la fin de la réunion, etc. Mais globalement, il y a une compréhension qui n'est pas forcément la meilleure. Qu'est-ce qu'on a fait pour que cette compréhension soit meilleure? Alors, je vous en ai un petit peu parlé, c'est qu'on a créé des outils progressivement qui sont devenus en fait numériques, des représentations qui sont devenues numériques. Et la représentation numérique a cet intérêt de pouvoir à la fois rassembler, c'est-à-dire la plupart des gens comprennent quand on est en représentation numérique tridimensionnelle, ils voient les choses comme dans la vraie vie, donc en fin de compte, c'est pas, en fait, ils comprennent une pièce, un assemblage de pièces, une voiture, etc., parce qu'ils la voient pour de vrai, quoi, en fait, en face d'eux. Ils ont en plus la possibilité de retravailler des choses. Voilà. Donc en fait, c'est la flexibilité du numérique. Ils ont la possibilité de changer de vue. Par exemple, vous voulez une vue en éclaté, puisque, ok, vous avez vu un assemblage de différentes pièces, mais vous voulez voir finalement un peu mieux chaque pièce. Ça, vous le faites instantanément, ce que vous ne pourriez pas forcément faire avec une maquette physique. Vous voulez voir un autre angle, vous voulez voir les choses en transparence, vous voulez voir une simulation pour voir si, comment est le comportement. Donc ça, vous pouvez le faire grâce au numérique. Et donc, si, par contre, si on reste uniquement sur la partie numérique, vous allez perdre le relien avec la réalité. Donc finalement, quand vous avez l'humain plus le numérique, ça vous permet en fait de mieux comprendre certaines choses et de prendre peut-être de meilleures décisions ensemble. Un autre exemple, qui n'est pas un exemple industriel, quand vous êtes en fait dans une ville, vous avez en fait plusieurs personnes qui sont en fait les organes de décision de cette ville. Comment ils travaillent? La plupart du temps, ils ont des dossiers, ils ont des rapports, par exemple, problématique de transport, est-ce qu'on lance une ligne, une nouvelle ligne de tram, de métro, etc., etc. Les équipements, tous ces aspects, c'est assez compliqué en fait de prendre une décision très souvent puisque vous avez plusieurs éléments qui sont assez disparates. L'intérêt de votre maquette numérique, c'est déjà de vous donner une représentation compréhensible au-delà de rapports, de tableaux, mais c'est aussi de rassembler tous ces éléments sur une seule vue. Et donc là, vous avez, pour quelqu'un qui est un décisionnaire de ville, vous avez quelque chose qui est plus appréhendable pour lui. Il est aussi un petit peu plus sûr d'avoir l'ensemble des éléments d'information, parce que sinon, il y a un risque, en fait, quand vous avez beaucoup d'informations, que vous oubliez, en fait, parce que l'humain est fait de telle façon qu'il ne peut pas retenir trop de choses non plus. Et donc, vous avez une cohabitation humain-numérique qui est utilisée. Alors là, je vous ai donné un cadre, on avait vu des cadres un peu plus industriels. Là, c'est un cadre qui est complètement différent, qui est un cadre plutôt de ville, de décision. Mais voilà, en fait, le numérique est tout à fait compatible avec l'humain et il y a une capacité d'augmentation. Il y a des gens qui ont peur du numérique parce qu'ils ont peur que, en fait, ça remplace et ça arrive sur certains aspects. Mais dans la majorité des applicatifs, en fait, c'est plutôt... Il y a un côté augmentation, c'est-à-dire que vous comprenez mieux les choses. Et dans le cadre de la ville, par exemple, vous pouvez pousser l'exercice jusqu'à, à un moment donné, vous avez une représentation qui est compréhensible par le plus grand nombre. Ce n'est pas uniquement pour les décisionnaires, c'est-à-dire que les décisionnaires peuvent se dire, ben, cette représentation, je veux que les citoyens de la ville puissent la voir, parce qu'il faut qu'ils puissent voir quels vont être les projets, comment on va passer, en fait, comment vont avancer ces projets, et qu'ils se rendent compte par eux-mêmes, et à la limite, si je leur demande ce qu'ils en pensent, eh ben, ils peuvent donner leur avis en toute conscience, parce qu'ils auront vraiment vu et compris en fait, le projet. Voilà. Donc on peut aller jusque-là. Et c'est en ça que c'est intéressant, pas uniquement pour certaines catégories de personnes, mais ça peut être intéressant pour tout le monde. Et donc, l'humain tout seul peut être problématique, même si ça paraît étonnant, mais voilà, les aspects liés aux réunions. Et le numérique, par contre, tout seul aussi peut être problématique, parce qu'il enferme, en fait, dans une réalité qui n'est pas la bonne. Le but, c'est quand vous faites du numérique pour faire des vrais objets, ben, voilà, faut qu'il y ait une possibilité d'ouverture, et elle existe. Et être, voilà, mieux comprendre, pour mieux décider, et pour mieux réfléchir aussi.
Alors aujourd'hui, les entreprises, justement, se veulent compétitives, logiquement, au niveau entre autres déjà de leur recrutement, mais aussi dans les usages de leurs salariés. Donc là, c'est intéressant ce que vous nous expliquez tout à l'heure sur le plan et le plateau de comment les gens justement ne sont plus travaillent plus à la chaîne mais tous ensemble. Notamment en fait les logiciels de PAO, donc de publication assistée par ordinateur, qui ont été conçus et ont évolué dans un esprit de compétitivité entre graphistes, où la collaboration en fait n'a pas de place au sein même du logiciel, j'entends. Et donc une question alors qui me vient à l'esprit. Comment est-ce que vous appliquez votre méthodologie de projet collective dans une grande entreprise? Et encore une fois, comment nous, à notre échelle d'étudiant, on pourrait l'appliquer au sein de nos projets?
Dans une posture de communication, en fait, quand vous êtes dans une posture d'information, vous faites les choses comme vous les ferez pour vous et vous les poussez. Donc, globalement, c'est comme ça que ça peut fonctionner dans une entreprise. Malheureusement, vous rendez vite compte que c'est pas le plus approprié parce que les gens comprennent pas, etc. Forcément, tout ce que vous communiquez. Alors, vous avez relevé le fait qu'il y a des outils effectivement qui sont un peu fermés, c'est-à-dire qu'ils sont ils ont pas été pensés pour travailler en mode collaboratif. Donc ça, tous les outils sont pas collaboratifs. Ça faut peut-être le dire parce que bon, même si ça paraît évident, il y a beaucoup d'outils qui sont des outils métiers. Qui justement ne sont pas faits pour être en mode collaboratif parce que y a un mode d'expertise qui est assez particulier. Quand vous commencez à ouvrir dans une entreprise par exemple, donc vous êtes en posture de communication, vous regardez. En fait, vous êtes moi par exemple. Ce que j'essaye de faire, c'est de donner à voir des choses qui sont moins expertes, mais qui sont plus compréhensibles. Par exemple, quand vous avez à communiquer une stratégie de communication, donc une partie de mon travail, soit vous l'écrivez, donc ça c'est une façon de faire, mais c'est pas forcément la façon la plus communicable. Donc l'écrire, c'est un peu un travail que je considère préliminaire. Par contre, après, j'ai un travail de communication. Si je reste sur le premier travail qui est juste de donner les renseignements, je suis dans une posture d'information, mais ce qui se passe la plupart du temps. L'étape d'après, sur laquelle il faut, ça demande un autre investissement, donc ça demande un peu de temps, ça demande de la recherche, ça demande aussi des fois d'interroger les gens, c'est en fait un second travail. Mais ça, pour moi, ça fait partie du travail complet. Travailler sur un sujet... c'est pas juste renseigner le sujet, c'est aussi savoir comment on va communiquer sur le sujet. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'on a peut-être naturellement quand on fait du design. Et le problème, c'est que c'est ça, c'est que c'est naturel. Le souci, je vais vous dire pourquoi, c'est que on le fait sans s'en rendre compte. Et on ne donne pas de valeur à ce travail. Et la deuxième chose, c'est que des fois, ce travail, comme on ne l'a pas pensé en étant en posture de communication, on va être un peu en posture d'expert. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire attention à ce que l'autre va pouvoir comprendre et recevoir. Donc, se rendre compte de ce travail de communication, c'est peut-être être un peu plus à l'écoute et finalement de changer un tout petit peu la façon dont on... ce qu'on va donner pour pouvoir s'assurer d'une meilleure réception. Voilà, donc c'est de ne pas être juste dans le faire le travail. Il y a dans la façon de travailler sur un projet, il y a un autre aspect sur le quand on ne travaille pas tout seul, et la plupart du temps, moi je pense que vous ne travaillerez jamais tout seul. Il faut penser à cette seconde étape qui est une étape de communication. Comment je donne à voir ou j'explique ce que j'ai pensé, réfléchi et formalisé pour moi. Voilà. Je ne donne plus pour moi, c'est aussi pour l'autre.
S'il y a une forme d'empathie en fait, où il faut se mettre à la place du ou des personnes visées, d'où elles viennent, de ce que vous disiez tout à l'heure, quoi, de leur culture.
Compassion, oui.
Une compassion peut-être aussi.
Ouais. Bon, c'est un peu fort, hein. Empathie, compassion. Mais il y a un peu de ça. Mais c'est le fait de...
un ancrage dans son contexte, en fait.
Oui, oui. Mais c'est-à-dire que vous savez que ce n'est pas que pour vous. Alors que la plupart du temps, on n'y pense pas. Et quand on n'y pense pas, on fait que pour nous, malheureusement.
Oui, des fois, ce n'est pas évident. Les choses qui sont dans nos têtes, ce n'est pas dans la tête de l'autre. Et c'est difficile de faire cet exercice, de se mettre à la place de l'autre pour essayer de comprendre comment l'autre va percevoir l'information qu'on lui donne. Oui. Mais c'est super important. Nous pourrions échanger sur ces sujets qui nous concernent beaucoup, surtout en tant qu'étudiants et étudiantes qui vont pratiquer le design. Mais nous allons devoir écourter cet épisode. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura de suite une table ronde qui va suivre avec d'autres intervenants et intervenantes et avec aussi notre camarade de master. Du coup, j'invite à tout le monde qui nous écoute à aller voir cet épisode aussi. Donc avant de notre épisode d'interview, Lionel, voulez-vous donner le mot de la fin, s'il vous plaît?
Bon, le mot de la fin, il sera simple. On a travaillé sur En fait, le design et la communication sont des notions très complémentaires. On a essayé, à travers plusieurs exemples et plusieurs intervenants, justement, d'avoir une richesse de traitement, puisque ce qu'on a essayé de faire, c'était... c'est pas un livre de designer pour les designers. C'est vraiment un livre qui est beaucoup plus ouvert. C'est un livre qui cherche à confronter aussi des points de vue, qui est globalement centré sur la notion de collaboration et de processus de travail en commun. La richesse, c'est qu'on a essayé d'être à peu près sur trois tiers. On a un tiers de personnes qui sont des gens du design côté créatif. On a un tiers des gens qui sont du design côté plutôt ingénierie. Et on a un tiers de sciences de l'information et de la communication. Pourquoi ? Alors, bon, déjà, on a beaucoup plus de richesses. On a un équilibre intéressant entre recherche et pragmatisme, puisque, en fait, la plupart des auteurs ont été jusqu'à donner des exemples de terrain, d'expérimentation, d'observation. Et cet ouvrage, en fait, il n'est pas uniquement, c'est pas un ouvrage uniquement, entre guillemets, intellectuel, c'est un ouvrage aussi qui se confronte à la réalité. Voilà. Donc c'est aussi l'intérêt de cette collection des essentiels de la revue Hermès, qui est en fait de donner une sorte d'état des lieux très riche et très concret, avec des notions de recherche sur lesquelles vous pouvez après creuser, puisque vous avez des aspects bibliographiques, etc. Voilà. Donc le design et la communication, c'est intéressant, parce que ça permet de mieux connaître à la fois le design, mais aussi la communication.
Merci beaucoup pour votre temps et pour cette interview si riche.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.